Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Deux heures d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. 12h30, 14h30, RTL Midi et l'info avec Amandine, effectivement, tous les jours, jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une famille entière décimée par le Covid en moins d'une semaine. Le monde du foot, convoqué au ministère de l'Intérieur. Et puis le Puy du Fou, qui va lancer un train spectacle, un voyage de 4000 km aux quatre coins de France.
Et après le journal, deux sujets comme tous les jours, on revient sur Jean Castex, positif au Covid, est-ce la faute au grand relâchement? Et puis à 12h50, des nouvelles de Jean-Pierre Pernaut. Nous avons beaucoup d'affection forcément pour lui, qui a annoncé hier qu'il souffrait d'un cancer des poumons. Et nous recevrons notamment le professeur Kayat, que vous connaissez, qui restera avec nous durant les auditeurs ont la parole. Et vous pourrez dialoguer avec lui et lui poser toutes les questions possibles.
La question du jour sur RTL.fr, elle concerne justement notre premier débat. Respect des gestes barrières, vous êtes-vous relâché? Vous dites non à 68%. La météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour, Peggy.
Bonjour, Amandine.
Et prudence en Languedoc-Roussillon.
Et oui, puisqu'on attend de fortes pluies cet après-midi, localement orageuses, avec un cumul important possible. Ça déborde sur les plaines du sud-ouest, avec un ciel chargé et quelques averses. Et puis ailleurs, c'est du très beau temps, juste quelques grisailles tenaces sur le centre-est et un peu plus de nuages sur les bords de Manche. Tout ça sous des températures fraîches sur le nord-est, entre 5 et 7 degrés, et de 9 à 13 ailleurs et jusqu'à 18 près de la Méditerranée.
Merci, Peggy. À tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc, cette histoire qui interpelle, l'histoire de cette famille emportée par le Covid. Trois personnes en moins d'une semaine. Ça s'est passé dans le petit village de Courcelles sous Châtenois, dans les Vosges, Samuel Goldschmidt.
Et tout s'est noué en 7 jours, effectivement. Dimanche 14 novembre, c'est d'abord le fils de 48 ans qui est retrouvé sans vie dans son lit. À ce moment-là, les secours sont appelés. Le lendemain, lundi 15, c'est la maman de 82 ans qui décède. Le père de 89 ans, enfin, est mort samedi dernier, le 20. Ce n'est qu'aujourd'hui que cette voisine a fait le lien entre tous ces événements.
Ça m'a parlé parce que moi j'étais chez une voisine parce qu'elle vient d'être veuve. On a entendu les pompiers arriver, mais le plus qui m'a surpris, c'est que le soir, le gros fourgon de la criminelle est arrivé, mais loin de me douter que c'était pour eux comme ça. Moi ça m'a fait un drôle d'effet. On est tous choqués parce que bon, on s'attendait pas à un truc comme ça.
Trois morts si rapprochés, le Covid fait un retour brutal.
Ben tout le monde a été surpris quand même parce que bon, ben, ils n'étaient pas vaccinés. Il y en a qui en parlent, il y en a qui en parlent pas. Bon, il y en a qui sont pour le vaccin, il y en a qui n'y sont pas.
Ça peut changer les choses, ce qui s'est passé?
Ben, je pense, oui.
C'est en tout cas l'exhortation du maire de Courcelles, Michel Imbleau.
C'était une famille qui n'était pas vaccinée, c'est dommage. Insistez près des gens, insistez près de vos enfants, près de votre famille, faites-vous vacciner, protégez-vous, protégez les autres. Voilà, c'est ce qu'il faut dire à tout le monde.
Faites-vous vacciner, vous venez de l'entendre, le maire de Courcelles sous Châtenois qui lance un appel sur RTL. Récit signé Samuel Goldschmidt.
C'est dans ce contexte et alors que les chiffres de l'épidémie flambent que se tiendra demain un nouveau conseil de défense.
Le conseil scientifique a publié hier une série de recommandations. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
À quoi faut-il s'attendre?
Alors déjà sans doute à l'élargissement de la troisième dose, au moins pour les plus de 50 ans dès le mois prochain, et en faire une condition pour garder son pass sanitaire. Vous ne faites pas votre rappel, vous perdez votre passe. C'est ce qu'a préconisé hier le conseil scientifique dans un avis remis au gouvernement. Il propose de passer ensuite aux plus de 40 ans assez vite et à terme une troisième dose à toute la population adulte pour éviter une sixième vague après l'hiver. Il recommande un renforcement des gestes barrières. Alors, comme les avis du conseil scientifique sont publiés avec l'accord du gouvernement, si celui-ci a été rendu public hier, on peut penser que les annonces de demain s'en inspireront. Le retour du masque obligatoire dans certains lieux clos, les cafés-restaurants, sauf à table, les cinémas, les salles de sport, un renforcement des contrôles, plus de tests dans les écoles notamment, et un élargissement du télétravail. Alors sans doute pas d'obligation, mais les entreprises risquent d'être incitées à nouveau à le proposer à leurs salariés.
Merci Virginie. Virginie Garin, le gouvernement qui se félicite par ailleurs d'avoir intensifié les contrôles au pass sanitaire. 55 000 la semaine dernière, c'est trois fois plus que début novembre. Un peu moins d'un sur 100 a donné lieu à une amende. Et puis concernant la situation en Guadeloupe. Deux sportifs montent ce midi au créneau. Isaora Tibus, médaillée olympique d'escrime, et Ganesh Pédurant, champion de France de natation. Tous deux appellent au calme, mais aussi et surtout au dialogue.
Le retour au calme, pour le moment, la seule réponse a été un peu dirigée vers la violence. Nous, on demande qu'il y ait vraiment une ouverture vers le dialogue pour que les messages puissent être entendus, que la population guadeloupéenne puisse se sentir reconnue, écoutée et respectée, parce qu'on a l'impression de demander, de parler, d'essayer d'ouvrir le dialogue et que les choses n'évoluent pas.
La question, c'est que l'obligation vaccinale aujourd'hui, elle reflète quelque chose d'un peu plus large, un peu plus global, qui est ce déclassement, ce manque de considération vis-à-vis des Guadeloupéens, les scandales dont on a beaucoup entendu parler, le chlordécone, le problème d'approvisionnement en eau, le chômage galopant, les prix extrêmement élevés là-bas. Et tout ça, toutes ces difficultés qui sont traitées que lors des grandes élections ou lors des crises, ben, ça fait qu'il y a des moments où ça explose et que ça devient, j'ai l'impression, la seule manière pour certains de s'exprimer.
Isaora Tibus et Ganesh Pédurant au micro RTL d'Isabelle Langer. De son côté, Gérald Darmanin indique que le rétablissement de l'ordre public est un préalable à toute discussion.
Gérald Darmanin, justement, le ministre de l'Intérieur, qui recevait ce matin le monde du football.
Réunion de crise après le fiasco du match OL-OM dimanche et à la sortie, quelques pistes et un nouveau rendez-vous dans 15 jours.
Deux problèmes. Le premier, c'est que le Covid a notamment permis, si j'ose dire, la fin d'un certain nombre d'interdictions de stade. Et puis deuxièmement, de voir comment on peut, par le système de caméras de vidéoprotection, étudier pourquoi pas la billetterie nominative, mettre davantage les préfets en lien avec les clubs de football, d'avoir un certain nombre de décisions qui seront prises. Et dans 15 jours, dans le même format, nous retrouver afin de proposer au Premier ministre et aux instances dirigeantes de football des propositions pour pouvoir très rapidement évacuer la minorité agissante qui pollue évidemment le beau spectacle pour pouvoir permettre à la très grande majorité des amateurs de football de pouvoir vivre en toute sécurité leur passion. Donc nous sommes en train de travailler et je pense que ce n'est pas sous le coup de l'émotion qu'on peut prendre un certain nombre de décisions qui sont restrictives.
Gérald Darmanin, micro RTL de Vincent Serrano. L'homme de 32 ans qui est soupçonné d'avoir jeté une bouteille sur Dimitri Payet sera lui jugé cet après-midi en comparution immédiate, audience à 14h devant le tribunal correctionnel de Lyon. À Marseille, 11 personnes ont été interpellées hier, toutes soupçonnées d'avoir pris part à l'enlèvement d'un homme en août dernier. Son corps avait été retrouvé calciné dans le coffre d'un véhicule incendié.
Le début aujourd'hui de la campagne des Restos du Cœur, c'est la 37e campagne.
Et un chiffre nous interpelle, le nombre d'enfants pris en charge par les Restos, presque un bénéficiaire sur deux désormais. C'est ce qu'expliquait ce matin sur RTL Patrice Douré, le président des Restos.
Les jeunes représentent la moitié des personnes que l'on accueille, avec un chiffre qui est inquiétant, qui est même révoltant, c'est la proportion de mineurs, puisque 40% des personnes que l'on accueille ont moins de 18 ans. Ce sont pour la plupart, une grande majorité des enfants qui sont dans des familles. Pour 26%, ces familles sont monoparentales, avec un besoin assez fort, en plus d'une aide alimentaire qui est souvent une aide de survie, de pouvoir bénéficier également d'un accompagnement et d'aide à la personne beaucoup plus personnalisée pour aider à s'en sortir plus rapidement.
40% des bénéficiaires des restos qui ont moins de 18 ans. Le président des Restos du Cœur était ce matin l'invité de Jérôme Florin sur RTL. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la diplomatie du ping-pong, non Pascal ?
Jamais.
Eh bien cette expression, elle est née en 1971, née d'une rencontre historique entre des joueurs chinois et américains. Vous allez voir, ça va vous dire quelque chose. 50 ans plus tard, Brice Dugénie, la Fédération internationale de tennis de table a décidé de célébrer l'événement.
Oui, 1971 à Pékin, les Chinois battent les Américains. Mais évidemment, la compétition marque le début du dégel des relations diplomatiques sino-américaines. Yao Zhengshu était l'un des joueurs chinois de l'époque et il se souvient avec nos confrères de l'AFP.
Grâce à la diplomatie du ping-pong, nous avons changé l'ordre du monde en permettant aux Américains et aux Chinois d'avoir des échanges amicaux. En ce moment, la relation entre la Chine et les États-Unis est un peu tendue, mais nous espérons pouvoir trouver un terrain d'entente. La compétition est légitime, mais elle doit rester pacifique.
Et pour célébrer les 50 ans de cette rencontre, dans ce contexte diplomatique toujours tendu entre Pékin et Washington, eh bien les fédérations chinoises et américaines ont décidé d'associer au championnat du monde deux duos sino-américains en double mixte. Donc un chinois et une américaine d'un côté, une chinoise et un américain de l'autre. La compétition, elle débute aujourd'hui à Houston, au Texas, en espérant, mais ce n'est pas gagné, que Joe Biden et Xi Jinping soient aussi sensibles au tennis de table que leurs prédécesseurs, Richard Nixon et Mao Zedong.
Eh bien, vous allez surveiller tout ça pour nous. Merci, Brice Dugénie du service étranger de RTL. Et puis le Puy du Fou, lui, va devenir une entreprise
ferroviaire à partir de l'été 2023. Le célèbre parc d'attractions, je vais y arriver, va en effet proposer un Tour de France historique, Arnaud Tauchin.
Oui, départ Paris-Gare de l'Est pour un voyage spectacle de 6 jours et 5 nuits, 4000 km dans un train que le parc vient d'acheter et qu'il va lui-même exploiter. Les conducteurs seront donc sous contrat avec le Puy du Fou et non pas avec la SNCF. Et ce train de luxe version Belle Époque modernisée s'arrêtera dans des endroits historiques, comme le détaille Nicolas Devilliers, le président du parc.
Par exemple, la cathédrale de Reims, je pense aux Hospices de Beaune, je pense au château de Chenonceau, bien sûr, je pense au bassin d'Arcachon, qui est un lieu magnifique, au lac d'Annecy. Les grands paysages, voyez, les lieux de culture, Paul Cézanne nous accueillera à Aix-en-Provence, seront l'occasion à chaque fois de voyager.
Et à bord, il y aura 15 cabines de 10 à 30 mètres carrés, deux voitures restaurants et une voiture bar.
Et tout ça, ça coûte combien ?
À partir de 4 900 € par personne.
Ça, ah oui, c'est pas
un...
donné.
Non, c'est même un du prix luxe. D'appel, Amandine, effectivement. À ce tarif-là, il n'y aura que 30 passagers à bord, c'est vrai. La direction du Puy du Fou explique qu'elle vise d'abord les fans du parc, les amoureux de la France, ainsi que les touristes étrangers qui veulent découvrir notre pays.
4 900 €, il faut être très
fan. Amandine. Oui.
Merci Arnaud Touche.
12h40, c'est l'heure de nos deux débats. Le premier, Jean Castex, positif au Covid, est-ce la faute du grand relâchement ? Et nous parlerons également avec le professeur Kayat vers 12h50. Et il restera avec nous, avec les auditeurs, du cancer de Jean-Pierre Pernaut, qui souffre d'un cancer du poumon. Et vous pourrez lui poser toutes les questions. Il a publié un livre formidable, Le cancer pour les nuls. A tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
C'était mardi dernier, il y a pile une semaine, Jean Castex, qu'on distinguait dans ce brouhaha, enchaîne les poignées de main lors d'une soirée organisée en marge du Congrès des maires de France. L'événement avait lieu à l'intérieur, personne ne portait de masque, forcément. L'image interpelle, hein, alors qu'on a appris hier que le Premier ministre était positif au Covid. Elle a d'ailleurs fait cette image depuis le tour des réseaux sociaux. Alors l'exécutif a-t-il été imprudent ? S'agit-il d'un cas d'école de cette cinquième vague ? C'est le premier débat d'RTL Midi avec nous. Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. Bonjour Odile.
Bonjour.
Et Benjamin Sportouche, du chef du service politique. Bonjour à vous aussi, Benjamin. Odile, alors on ne sait pas précisément comment le Premier ministre a été contaminé, mais clairement, les fameux gestes barrières n'ont pas été respectés.
On a envie de dire, comme beaucoup de Français actuellement, qui par lassitude ou par conviction d'être protégés totalement par la vaccination se relâchent au fil des semaines. Alors c'est ce qu'on constate en tout cas avec des chiffres très précis, la dernière enquête réalisée par Santé publique France sur l'adhésion de la population aux gestes barrières. La chute la plus importante concerne les embrassades et le serrage de main, justement. Seuls aujourd'hui, 54% des Français disent les éviter quand ils se saluent, chute de 4 points par rapport à septembre. Le lavage systématique des mains est lui aussi moins respecté, comme le port systématique du masque dans tous les endroits publics fermés. Pour le masque, on est seulement aujourd'hui à 66% d'adhésion, ça veut dire que 44% des Français ne respectent pas. Alors, je ne veux pas faire de stigmatisation, mais il faut noter un relâchement plus marqué chez les hommes, chez les jeunes, entre 18 et 34 ans, et puis tous ceux qui n'exercent pas une activité professionnelle, cette catégorie de la population ayant évidemment moins de contraintes.
Il faut reconnaître, Pascal, qu'on a tous été tentés ces dernières semaines.
Mais
ça fait longtemps.
Les gestes étaient respectés, est-ce que la contamination serait la même ou pas ? C'est toujours des questions. C'est pour ça que les gens sont vaccinés et ça contamine encore.
Donc, c'est la limite, quand même.
Oui, bien sûr.
Il y a quand même un embarras, Benjamin, du côté du gouvernement.
En tous les cas, c'est vrai que le Premier ministre, qui plusieurs fois est passé à côté de la contamination, il croisait les doigts pour que ce soit à nouveau le cas. Eh bien non, le Premier ministre est donc Covid+. Selon son entourage, il a très peu de symptômes, hein, il va bien, il est chez lui, mais il est en quarantaine pour 10 jours jusqu'au 1er décembre. Donc ça veut dire qu'il fera tout par visioconférence, notamment le Conseil des ministres et le Conseil sanitaire de demain matin. Et puis annulation de ses 3 déplacements déjà prévus dans la semaine, jeudi en Ile-de-France, vendredi en Corrèze et samedi à Strasbourg. Et donc c'est bien sa fille de 11 ans qui l'a contaminée.
Comment vous le savez ?
En tous les cas, c'est ce que dit Matignon.
Ce qui s'est passé, Odile, c'est que visiblement... Elle peut être positive avant, pas forcément...
Odile.
On est d'accord.
C'est ça. Et donc, ils ont remonté la chaîne de contamination. Bien alors, bien évidemment, vous avez raison, Pascal, pour le coup. Est-ce qu'on a une certitude à 100% ? Non, Odile, non. En tous les cas,
pas une certitude à 100%.
Matignon nous dit qu'ils ont remonté la chaîne de contamination et qu'ils estiment, ils pensent que c'est sa fille.
J'ai bien compris qu'il fallait dire très vite que c'était la fille du Premier ministre, surtout. Alors, j'ai bien compris cette affaire. Ça m'a pas échappé.
Qu'est-ce que ça veut dire, Pascal?
Après l'image de la semaine dernière, c'est plutôt... D'ailleurs, on va pas rentrer dans une polémique, bien sûr, mais après l'image de la semaine dernière, on voyait le Premier ministre ne pas respecter les gestes barrières, c'est plutôt bien pour lui de dire que c'est sa fille qui l'a contaminé.
Bon, en tous les cas, ça peut aussi poser la question de la vaccination des plus jeunes. Bon, peut-être aussi, puisque
ah, vous voulez
elle a 11
ans. Les gars,
je vous pose.
Ans.
Je vous pose. Non, mais je pose. Mais non, mais voyez, vous lancez un débat. Vous savez très bien que c'est sur la. C'est aussi un autre débat. C'est
on y viendra peut-être.
Bah voilà, Odile le dit.
Alors, ce monde est fascinant.
En tous les cas,
ce monde devient fascinant.
En tous les cas, le cabinet. Bah, ça se fait dans d'autres pays, parce que alors le cabinet du Premier ministre, lui, n'est pas en quarantaine, puisque donc on doit remonter à 48 heures, et qu'il n'était pas en contact. Par contre, il y a des ministres qui sont, eux, concernés.
Mais Clément Beaune, j'ai vu par exemple, alors, il a enlevé son compte Instagram.
Ça, c'était totalement maladroit.
Mais bien sûr.
Bah oui, c'était maladroit. Ouais. C'est ce qu'on nous dit même.
Alors, expliquer, il a enlevé une photo.
Alors, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, était aux côtés du Premier ministre. Et en fait, ce matin, pour ne plus apparaître à ses côtés, il a supprimé une image. Et c'était, et bien évidemment, l'Internet a de la mémoire, beaucoup plus que nous. Et donc, c'est ressorti aussitôt.
Jean Castex, vacciné, il faut le rappeler, à deux reprises. Ça montre bien, Odile, quand même, qu'on peut être vacciné, attraper le Covid, d'où la nécessité du maintien des gestes barrières. Le masque, par exemple.
Alors, le port du masque, vous en parlez, c'est sans doute la mesure la plus efficace d'entre toutes, en particulier lorsque tout le monde le porte correctement, c'est-à-dire nez et bouche à l'intérieur, au sein d'un groupe, d'un lieu clos, les masques filtrant les particules infectées. Le risque de contaminer et d'être contaminé est globalement réduit. Il y a une méta-analyse qui regroupe 30 analyses du monde entier parues dans une revue scientifique très sérieuse, très récente, qui prouve que le taux d'incidence avec ce port du masque est réduit de moitié. Mais ce port du masque doit être...
Que de moitié ?
Bon, c'est déjà pas
c'est
mal,
attendez.
Vous voyez toujours le verre à moitié.
Alors ça, je suis fasciné. C'est-à-dire qu'on porte tous le masque et ce n'est que de moitié.
Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme.
Je pensais que ce serait à 90%.
Ce port du masque, il doit être combiné à d'autres mesures. Et là, c'est là qu'entre en jeu la notion du modèle emmental. Je m'explique.
C'est quoi ça ?
Je m'explique. Oh là là. Si on empile des tranches de ce fromage, les unes sur les autres, il y aura donc de moins en moins de trous de passages potentiels. De la même façon, chaque mesure barrière ajoute une barrière. C'est-à-dire que le virus, il a moins de voies de transmission. Port du masque, plus lavage des mains, efficace, pour parce qu'on a tendance quand même à se toucher le visage, le nez, la bouche, les yeux plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois par heure. Ce sont des points d'entrée pour la contamination. N'oublie pas la distanciation physique, qui réduit elle aussi là de 25%.
Et on aère.
Et on aère les logements, les bureaux, les lieux clos en tout genre, puisque l'une des voies d'infection du coronavirus, c'est liée au fines particules issues de nos voies respiratoires, ce sont les aérosols, on le sait, qui restent longtemps en suspension dans l'air. Donc, cette aération régulière est primordiale. Ça commence à rentrer dans les mœurs. Selon l'enquête de Santé publique France, il y a 45% des Français qui affirment qu'ils aèrent toutes les heures pendant quelques minutes.
Eh bien, merci beaucoup, Odile, pour ces renseignements extrêmement précis.
Merci, Benjamin,
précis.
Aussi.
Benjamin, merci, oui. Merci aussi à vous.
Oh,
je ne sais pas si je vais revenir, Pascal.
Mais Benjamin, vous savez bien que je vous adore. D'ailleurs, si vous souhaitez rester avec nous, vous pouvez toujours rester. Vous avez table ouverte avec les auditeurs qui vous adorent également. Il est 12h50. On va recevoir le professeur Kayat. On va parler de Jean-Pierre Pernaut, pour qui on a beaucoup d'affection. Ça va être extrêmement intéressant de lui poser également des questions durant la séquence Les Auditeurs. A tout de suite.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Bonsoir, juste un petit message pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement cet après-midi. Et oui, il y a eu une fuite annonçant dans les médias que je souffrais d'un cancer du poumon. C'est vrai. Et si j'en parle, d'abord, c'est parce qu'il ne faut pas avoir peur du cancer. J'en ai déjà eu un, la prostate, vous le savez. J'en ai parlé pour essayer d'améliorer la prévention. Même chose pour le poumon. J'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru, j'aurais dû arrêter. Voilà, je vous tiendrai au courant. Tout va bien pour l'instant. On surveille, tout est sous contrôle. Salut et merci à vous.
Vous aurez bien sûr reconnu la voix de Jean-Pierre Pernaut, l'ex-présentateur vedette du JTTF1, qui se bat donc contre un cancer des poumons. Il l'a annoncé hier soir sur Twitter, vous venez d'entendre ce message. Et ce midi, il a un message, Pascal, à faire passer.
Effectivement, puisque ce matin, j'ai échangé avec Jean-Pierre par SMS et il ne pouvait malheureusement pas être avec nous. D'ailleurs, il viendra peut-être la semaine prochaine, je suis toujours en texto avec lui, et il dit « Dis bien à tes auditeurs d'arrêter de fumer. Et quand tu connais Jean-Pierre Pernaut qui passait son temps à fumer, on l'a connu ensemble à TF1, bah aujourd'hui, c'est le message qu'il veut faire passer.
Et bonjour professeur Cayatte.
Bonjour madame.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes, je le rappelle, cancérologue et auteur du livre Prévenir et soigner le cancer pour les nuls. Arrêter de fumer, c'est la meilleure prévention contre le cancer des poumons.
Bien sûr.
Tous les cancers, j'allais dire, peut-être.
Contre beaucoup de cancers. Hein. Le tabac, c'est 30% des cancers, quand même. Et c'est le cancer du poumon, de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, de la vésicule biliaire, du pancréas, de la vessie. Donc on parle de beaucoup de cancers. 30% des cancers sont dus à ça. Alors, il est clair que si vous regardez l'espérance de vie entre un fumeur et un non-fumeur, et tout ça, c'est des moyennes, hein, parce qu'entre le type qui fume 5 cigarettes, celui qui en fume 2 paquets, mais dans des moyennes, ça vous fait 12 ans d'espérance de vie en plus quand vous ne fumez pas. Et il faut savoir que quand vous arrêtez de fumer, au bout d'un peu moins d'une dizaine d'années, vous rejoignez le pronostic, c'est-à-dire l'espérance de vie de quelqu'un qui n'a pas fumé. Donc c'est réversible, ça met du temps à être réversible, donc il faut s'arrêter tôt dans la vie, mais on peut encore se racheter, on a une deuxième chance, si vous voulez, ça c'est très important. Alors ensuite, pourquoi le tabac donne-t-il cancer ? C'est pas uniquement le tabac, c'est tout ce qui est une substance naturelle qui est brûlée. Mmh. Que vous ce soit une aubergine sur un barbecue à l'italienne, où vous voyez des traces noires, un steak marqué par la flamme, ou du tabac, des feuilles de tabac, d'ailleurs, je veux dire, les feuilles de cannabis aussi, parce que on est dans une situation incroyable où on dit il faut arrêter de fumer, mais on dit on va légaliser, autoriser de fumer du cannabis. Je veux dire, le jeune, il comprend quoi, là? Il comprend que fumer, c'est pas si dangereux que ça. Donc, tout ce qui brûle, toute fumée noire contient des substances cancérigènes. Dans la fumée du tabac, il y en a à peu près 80, et ces substances donnent le cancer du poumon.
Juste, le cancer du poumon, c'est un peu plus de 46 000 cas,
c'est 46 000 et 33, nouveau... malheureusement 33 000 morts.
Voilà. Fait partie des cancers qu'on a le plus de mal encore à soigner, non ?
Ah, ça a changé depuis 4-5 ans avec l'immunothérapie, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand même, les gens commencent à réagir. Même si en France, on a un des taux de fumeurs le plus élevé des 27 pays européens, ou 26 pays européens, il se passe une chose, c'est que quand on regarde dans les 20 dernières années, le nombre de cancers du poumon et la mortalité par cancer du poumon n'a pas cessé de baisser chez l'homme. Grosso modo, 0,3% par an de moins. Par contre, chez la femme, c'est plus 5% par an. Et on a triplé pratiquement le nombre de cancers du poumon chez la femme. Surtout les femmes nées avant, grosso modo, 70, parce qu'elles ont vécu la libération, le féminisme, etc. Après, les gens plus jeunes, quand ils sont arrivés à 18 ans, à 15 ans, ils avaient quand même des infos sur le fait que le tabac, c'était pas bon. Donc ça, c'est très important. L'épidémiologie du cancer du poumon change. Son pronostic est bouleversé. Ça n'est plus du tout la même maladie. Moi, ça fait 45 ans, malheureusement, que je me bats contre le cancer. Les cancers du poumon, notamment dès lors qu'il y avait une métastase, c'était la fin entre 6 à 8 mois, 9 mois. Aujourd'hui, vous avez toute une tranche de ces malades atteints de cancer du poumon dit incurables qui vont guérir avec l'immunothérapie, qu'on associe d'ailleurs avec de la chimio. Mais quand vous utilisez toutes ces armes, la chirurgie, la radiothérapie, dans la radiothérapie, il y a des nouvelles formes de radiothérapie invraisemblables, dont d'ailleurs, parce que j'ai parlé avec Madame Pernaut ce matin, elle m'a raconté toute l'histoire, mais il a bénéficié de ces nouvelles des nouvelles façons de faire des rayons. Vous savez, les rayons, normalement, c'est tous les jours, 5 jours par semaine, pendant 7 semaines, des choses. Là, maintenant, il y a des nouvelles machines qui sont d'une telle précision, qui au départ servaient d'ailleurs à brûler des petits anévrises dans le cerveau, donc il ne fallait pas toucher le cerveau. Et maintenant, on les utilise pour détruire des métastases dans les cancers, y compris le poumon. C'est 5 séances, et la boule, elle est morte. Et sans effet secondaire. Alors, plus la chimio, qui a évolué de façon fantastique, et l'arrivée de l'immunothérapie. Demain, les vaccins ARN, mais déjà aujourd'hui, l'immunothérapie. Moi, j'ai des malades qui, depuis 4-5 ans, après immunothérapie, n'ont plus aucun traitement et sont guéris.
Vous allez rester avec nous. Il est 12h58, vous allez vraiment rester avec nous. Et tous les auditeurs vont pouvoir vous interroger parce que c'est passionnant, bien évidemment. D'abord, c'est progrès possible.
C'est encourageant aussi.
C'est encourageant, bien évidemment. On rappelle quand même ce que vous avez dit, cancer, la fumée, c'est la bouche, œsophage.
La fumée, poumon. Vous la respirez, vous l'avalez.
Oui.
Donc là où c'est passé, ça fait du mal.
Donc c'est tous ces cancers-là, ça c'est très intéressant. Mais c'est pas que les poumons.
Non, il faut savoir que 80% des cancers du poumon viennent chez les fumeurs. Donc c'est vraiment un cancer du fumeur. Mais sans encourager les gens à fumer, c'est 8% des fumeurs qui ont un cancer du poumon à l'inverse. Ça veut dire que demain, on pourra faire de la prévention en sachant reconnaître ceux qui sont à risque.
Ça veut dire quand même que 92% des gens qui fument n'ont pas de cancer.
Oui, ils ont d'autres choses. Hein. Attendez.
Oui, non, mais
ils ont des stents, ils ont des infarctus, ils ont plein de choses. Hein.
12h58, la pause, à tout de suite.
RTL Midi.